Honoré de Balzac, Illusion perdue. Première partie, chapitre 2. Le père partit à pied pour la campagne. Quoique très heureux de sa vente, déguisé sous le nom d'association, il était inquiet de la manière dont il serait payé. Après les angoisses de la vente, viennent toujours celles de sa réalisation. Toutes les passions sont essentiellement jésuitiques. Cet homme, qui regardait l'instruction comme inutile, s'efforça de croire à l'influence de l'instruction. Il hypothéquait ses 30 000 francs sur les idées d'honneur que l'éducation devait avoir développées chez son fils. En jeune homme bien élevé, David suerait sang et eau pour payer ses engagements. Ses connaissances lui feraient trouver des ressources. Il s'était montré plein de beaux sentiments. Il paierait. Beaucoup de pères qui agissent ainsi croient avoir agi paternellement, comme le vieux Séchard avait fini par se le persuader en atteignant son vignoble situé à Marsac, petit village à 4 lieues d'Angoulême. Ce domaine, où le précédent propriétaire avait bâti une jolie habitation, s'était augmenté d'année en année depuis 1809, époque où le vieil ours l'avait acquis. Il y échangea les soins du pressoir contre ceux de la presse, et il était, comme il le disait, depuis trop longtemps dans les vignes pour ne pas s'y bien connaître. Pendant la première année de sa retraite à la campagne, le père Séchard montra une figure soucieuse au-dessus de ses échalas, car il était toujours dans son vignoble. Comme jadis, il demeurait au milieu de son atelier. C'est 30 000 francs inespérés le grisaient encore plus que la purée septembrale. Il les maniait idéalement entre ses pouces. Moins la somme était due, plus il désirait l'encaisser. Aussi, souvent accourait-il de Marsac à Angoulême, attiré par ses inquiétudes. Il gravissait les rampes du rocher sur le haut duquel est assise la ville. Il entrait dans l'atelier pour voir si son fils se tirait d'affaire. Or, les presses étaient à leur place. L'unique apprenti, coiffé d'un bonnet de papier, décrassait les tampons. Le vieil ours entendait crier une presse sur quelques billets de faire part. Il reconnaissait ses vieux caractères. Il apercevait son fils et le prote, chacun lisant dans sa cage un livre que l'ours prenait pour des épreuves. Après avoir dîné avec David, il retournait alors à son domaine de Marsac en ruminant ses craintes. L'avarice a, comme l'amour, un don de seconde vue sur les futurs contingents. Elle les flaire, elle les pressent. Loin de l'atelier, où l'aspect de ses outils le fascinait en le reportant au jour où il faisait fortune, le vigneron trouvait chez son fils d'inquiétants symptômes d'inactivité. Le nom de Cointe et frère l'effarouchait. Il le voyait dominant celui de Séchard et fils. Enfin, il sentait le vent du malheur. Ce pressentiment était juste. Le malheur planait sur la maison Séchard. Mais les avares ont un dieu. Par un concours de circonstances imprévues, ce dieu devait faire trébucher dans l'escarcelle de l'ivrogne le prix de sa vente usuraire. Voici pourquoi l'imprimerie Séchard tombait, malgré ses éléments de prospérité. Indifférent à la réaction religieuse que produisait la Restauration dans le gouvernement, mais également insouciant du libéralisme, David gardait la plus nuisible des neutralités en matière politique et religieuse. Il se trouvait dans un temps où les commerçants de province devaient professer une opinion afin d'avoir des chalands, car il fallait opter entre la pratique des libéraux et celle des royalistes. Un amour qui vint au cœur de David et ses préoccupations scientifiques, son beau naturel, l'empêchèrent d'avoir cette âpreté au gain qui constitue le vrai commerçant et qui lui eût fait étudier les différences qui distinguent l'industrie provinciale de l'industrie parisienne. Les nuances si tranchées dans les départements disparaissent dans le grand mouvement de Paris. Ses concurrents, les frères Cointet, se mirent à l'unisson des opinions monarchiques. Ils firent ostensiblement maigre, hantèrent la cathédrale, cultivèrent les prêtres et réimprimèrent les premiers livres religieux dont le besoin se fit sentir. Les Cointet prirent ainsi l'avance dans cette branche lucrative et calomnièrent David Séchard en l'accusant de libéralisme et d'athéisme. « Comment, disait-il, employer un homme qui avait pour père un septembriseur, un ivrogne, un bonapartiste, un vieil avare, qui devait lui laisser des monceaux d'or ?» Ils étaient pauvres, chargés de famille, tandis que David était garçon et serait puissamment riche. Aussi n'en prenait-il qu'à son aise, etc. Influencé par ces accusations portées contre David, la préfecture et l'évêché finirent par donner le privilège de leurs impressions aux frères Cointet. Bientôt, ces avides antagonistes, enhardis par l'incurie de leur rival, créèrent un second journal d'annonces. La vieille imprimerie fut réduite aux impressions de la ville et le produit de sa feuille d'annonce diminua de moitié. Riche de gains considérables réalisés sur les livres d'église et de piété, la maison Cointet proposa bientôt aux Séchard de leur acheter leur journal afin d'avoir les annonces du département et les insertions judiciaires sans partage. Aussitôt que David eut transmis cette nouvelle à son père, le vieux vigneron, épouvanté déjà par les progrès de la maison Cointet, fondit de Marsac sur la place du Mûrier avec la rapidité du corbeau qui a flairé les cadavres d'un champ de bataille. « Laisse-moi manœuvrer les Cointet. Ne te mêle pas de cette affaire, » dit-il à son fils. Le vieillard eut bientôt deviné l'intérêt des Cointet. Il les effraya par la sagacité de ses aperçus. Son fils commettait une sottise qu'il venait empêcher, disait-il. Sur quoi reposera notre clientèle s'il cède notre journal? Les avoués, les notaires, tous les négociants de l'Houmeau seront libéraux. Les Cointet ont voulu nuire aux Séchard en les accusant de libéralisme. Ils leur ont ainsi préparé une planche de salut. Les annonces des libéraux resteront aux Séchard. Vendre le journal, mais autant vendre matériel et brevet. Il demandait alors aux Cointet 60 000 francs de l'imprimerie pour ne pas ruiner son fils. Il aimait son fils, il défendait son fils. Le vigneron se servit de son fils comme les paysans se servent de leurs femmes. Son fils voulait ou ne voulait pas, selon les propositions qu'il arrachait une à une aux Cointet, et il les amena, non sans effort, à donner une somme de 22 000 francs pour le journal de la Charente. Mais David dut s'engager à ne jamais imprimer quelque journal que ce fût, sous peine de 30 000 francs de dommages-intérêts. Cette vente était le suicide de l'imprimerie Séchard. Mais le vigneron ne s'en inquiétait guère. Après le vol, vient toujours l'assassinat. Le bonhomme comptait appliquer cette somme au paiement de son fonds. Et, pour la palper, il aurait donné David par-dessus le marché. D'autant plus que ce gênant fils avait droit à la moitié de ce trésor inespéré. En dédommagement, le généreux père lui abandonna l'imprimerie, mais en maintenant le loyer de la maison aux fameux 1 200 francs. Depuis la vente du journal au Cointet, le vieillard vint rarement en ville. il allégua à son grand âge. Mais la raison véritable était le peu d'intérêt qu'il portait à une imprimerie qui ne lui appartenait plus. Néanmoins, il ne put entièrement répudier la vieille affection qu'il portait à ses outils. Quand ses affaires l'amenaient à Angoulême, il eût été très difficile de décider qui l'attirait le plus dans sa maison, ou de ses presses en bois, ou de son fils, auquel il venait, par forme, demander ses loyers. Son ancien prote, devenu celui des Cointet, savait à quoi s'en tenir sur cette générosité paternelle. Il disait que ce fin renard se ménageait ainsi le droit d'intervenir dans les affaires de son fils en devenant créancier privilégié par l'accumulation des loyers. La nonchalante incurie de David Séchard avait des causes qui peindront le caractère de ce jeune homme. Quelques jours après son installation dans l'imprimerie paternelle, il avait rencontré l'un de ses amis de collège, alors en proie à la plus profonde misère. L'ami de David Séchard était un jeune homme, alors âgé d'environ 21 ans, nommé Lucien Chardon, et fils d'un ancien chirurgien des armées républicaines, mis hors de service par une blessure. La nature avait fait un chimiste de M. Chardon le père, et le hasard l'avait établi pharmacien à Angoulême. La mort le surprit au milieu des préparatifs, nécessité par une lucrative découverte, à la recherche de laquelle il avait consumé plusieurs années d'études scientifiques. Il voulait guérir toute espèce de goutte. La goutte est la maladie des riches, et comme les riches paient cher la santé quand ils en sont privés, il avait choisi ce problème à résoudre parmi tous ceux qui s'étaient offerts à ses méditations. Placé entre la science et l'empirisme, feu Chardon comprit que la science pouvait seule assurer sa fortune. Il avait donc étudié les causes de la maladie et basé son remède sur un certain régime qui l'appropriait à chaque tempérament. Il était mort pendant un séjour à Paris, où il sollicitait l'approbation de l'Académie des sciences et perdit ainsi le fruit de ses travaux. Pressentant sa fortune, le pharmacien ne négligeait rien pour l'éducation de son fils et de sa fille, en sorte que l'entretien de sa famille avait constamment dévoré les produits de sa pharmacie. Ainsi, non seulement il laissa ses enfants dans la misère, mais encore, pour leur malheur, il les avait élevés dans l'espérance de destinées brillantes qui s'éteignirent avec lui. L'illustre Desplein, qui lui donna des soins, le vit mourir dans des convulsions de rage. Cette ambition eut pour principe le violent amour que l'ancien chirurgien portait à sa femme, dernier rejeton de la famille de Rubempré, miraculeusement sauvé par lui de l'échafaud en 1793. Sans que la jeune fille eût voulu consentir à ce mensonge, il avait gagné du temps en la disant enceinte. Après s'être, en quelque sorte, créé le droit de l'épouser, il l'épousa malgré leur commune pauvreté. Ses enfants, comme tous les enfants de l'amour, eurent pour tout héritage la merveilleuse beauté de leur mère, présent si souvent fatal quand la misère l'accompagne. Ses espérances, ses travaux, ses désespoirs si vivement épousés avaient profondément altéré la beauté de Madame Chardon, de même que les lentes dégradations de l'indigence avaient changé ses mœurs. Mais son courage et celui de ses enfants égala leur infortune. La pauvre veuve vendit la pharmacie, située dans la grand-rue de Loumeau, le principal faubourg d'Angoulême. Le prix de la pharmacie lui permit de se constituer 300 francs de rente, somme insuffisante pour sa propre existence. Mais elle et sa fille acceptèrent leur position sans en rougir et se vouèrent à des travaux mercenaires. La mère gardait les femmes en couche, et ses bonnes façons la faisaient préférer à tout autre dans les maisons riches, où elle vivait sans rien coûter à ses enfants, tout en gagnant 20 sous par jour. Pour éviter à son fils le désagrément de voir sa mère dans un pareil abaissement de conditions, elle avait pris le nom de Madame Charlotte. Les personnes qui réclamaient ses soins s'adressaient à M. Postel, le successeur de M. Chardon. La sœur de Lucien travaillait chez une blanchisseuse de fin, sa voisine, et gagnait environ 15 sous par jour. Elle conduisait les ouvrières et jouissait dans l'atelier d'une espèce de suprématie qui la sortait un peu de la classe des grisettes. Les faibles produits de leur travail, joints aux 300 livres de rente de Madame Chardon, arrivaient environ à 800 francs par an, avec lesquels ces trois personnes devaient vivre, s'habiller et se loger. La stricte économie de ce ménage rendait à peine suffisante cette somme, presque entièrement absorbée par Lucien. Madame Chardon et sa fille Ève croyaient en Lucien, comme la femme de Mahomet crut en son mari. Leur dévouement à son avenir était sans bornes. Cette pauvre famille demeurait à Loumeau, dans un logement loué pour une très modique somme par le successeur de M. Chardon, et situé au fond d'une cour intérieure, au-dessus du laboratoire. Lucien y occupait une misérable chambre en mansarde. Stimulé par un père qui, passionné pour les sciences naturelles, l'avait d'abord poussé dans cette voie, Lucien fut un des plus brillants élèves du collège d'Angoulême, où il se trouvait en troisième lorsque Séchard y finissait ses études. Quand le hasard fit rencontrer les deux camarades de collège, Lucien, fatigué de boire à la grossière coupe de la misère, était sur le point de prendre un de ces partis extrêmes auxquels on se décide à 20 ans. 40 francs par mois que David donna généreusement à Lucien en s'offrant à lui apprendre le métier de prote, quoiqu'un prote lui fût parfaitement inutile, sauva Lucien de son désespoir. Les liens de leur amitié de collège ainsi renouvelés se resserrèrent bientôt par les similitudes de leur destinée et par les différences de leur caractère. Tous deux, l'esprit gros de plusieurs fortunes, ils possédaient cette haute intelligence qui met l'homme de plein pied avec toutes les sommités et se voyait jeté au fond de la société. Cette injustice du sort fut un lien puissant. Puis, tous deux étaient arrivés à la poésie par une pente différente. Quoique destiné aux spéculations les plus élevées des sciences naturelles, Lucien se portait avec ardeur vers la gloire littéraire. Tandis que David, que son génie méditatif prédisposait à la poésie, inclinait par goût vers les sciences exactes. Cette interposition des rôles engendra comme une fraternité spirituelle. Lucien communiqua bientôt à David les hautes vues qu'il tenait de son père sur les applications de la science à l'industrie. Et David fit apercevoir à Lucien les routes nouvelles où il devait s'engager dans la littérature pour s'y faire un nom et une fortune. L'amitié de ces deux jeunes gens devint en peu de jours une de ces passions qui ne naissent qu'au sortir de l'adolescence. David entrevit bientôt la belle Ève et s'en éprit, comme se prennent les esprits mélancoliques et méditatifs. « Let nunc et semper et in secula secularum » de la liturgie est la devise de ces sublimes poètes inconnus dont les œuvres consistent en de magnifiques épopées enfantées et perdues entre deux cœurs. Quand l'amant eut pénétré le secret des espérances, que la mère et la sœur de Lucien mettaient en ce beau front de poète, Quand leur dévouement aveugle lui fut connu, il trouva doux de se rapprocher de sa maîtresse en partageant ses immolations et ses espérances. Lucien fut donc pour David un frère choisi. Comme les ultras qui voulaient être plus royalistes que le roi, David outra la foi que la mère et la sœur de Lucien avaient en son génie. Il le gâta comme une mère gâte son enfant. Durant une de ces conversations où, pressés par le défaut d'argent qui leur liait les mains, ils ruminaient, comme tous les jeunes gens, les moyens de réaliser une prompte fortune en secouant tous les arbres déjà dépouillés par les premiers venus sans en obtenir de fruits, Lucien se souvint de deux idées émises par son père. Monsieur Chardon avait parlé de réduire de moitié le prix du sucre par l'emploi d'un nouvel agent chimique et de diminuer d'autant le prix du papier en tirant de l'Amérique certaines matières végétales analogues à celles dont se servent les Chinois et qui coûtaient peu. David s'empara de cette idée en y voyant une fortune et considéra Lucien comme un bienfaiteur envers lequel il ne pourrait jamais s'acquitter. Chacun devine combien les pensées dominantes et la vie intérieure des deux amis les rendaient impropres à gérer une imprimerie. Loin de rapporter 15 à 20 000 francs, comme celle des frères Cointet, imprimeurs libraires de l'évêché, propriétaires du courrier de la Charente, désormais le seul journal du département, l'imprimerie de Séchard-Fils produisait à peine 300 francs par mois, sur lesquels il fallait prélever le traitement du prot, les gages de Marion, les impositions, le loyer, ce qui réduisait David à une centaine de francs par mois. Des hommes actifs et industrieux auraient renouvelé les caractères, acheté des presses en fer, se seraient procurés dans la librairie parisienne des ouvrages qu'ils eussent imprimés à bas prix. Mais le maître et le prot, perdus dans les absorbants travaux de l'intelligence, se contentaient des ouvrages que leur donnait leur dernier client. Les frères Cointet avaient fini par connaître le caractère et les mœurs de David. Ils ne le calomniaient plus. Au contraire, une sage politique leur conseillait de laisser vivoter cette imprimerie et de l'entretenir dans une honnête médiocrité, pour qu'elle ne tombât point entre les mains de quelque redoutable antagoniste. Ils y envoyaient eux-mêmes les ouvrages dits de ville. Ainsi, sans le savoir, David Séchard n'existait, commercialement parlant, que par un habile calcul de ses concurrents. Heureux de ce qu'il nommait sa manie, les Cointet avaient pour lui des procédés en apparence pleins de droiture et de loyauté. Mais ils agissaient, en réalité, comme l'administration des messageries, lorsqu'elle simule une concurrence pour en éviter une véritable. L'extérieur de la maison Séchard était en harmonie avec la crasse avarice qui régnait à l'intérieur, où le vieil ours n'avait jamais rien réparé. La pluie, le soleil, les intempéries de chaque saison avaient donné l'aspect d'un vieux tronc d'arbre à la porte de l'allée, tant elle était sillonnée de fentes inégales. La façade, mal bâtie en pierre et en briques mêlées sans symétrie, semblait plier sous le poids d'un toit vermoulu, surchargé de ces tuiles creuses qui composent toutes les toitures dans le midi de la France. Le vitrage vermoulu était garni de ces énormes volets maintenus par les épaisses traverses qu'exige la chaleur du climat. Il eût été difficile de trouver dans tout Angoulême une maison aussi lézardée que celle-là, qui ne tenait plus que par la force du ciment. Imaginez cet atelier clair aux deux extrémités, sombre au milieu, ses murs couverts d'affiches, bruni en bas par le contact des ouvriers qui avaient roulé depuis 30 ans, son attirail de cordes au plancher, ses piles de papier, ses vieilles presses, ses tas de pavés à charger les papiers trempés, ses rangs de casses et, au bout, les deux cages où, chacun de leur côté, se tenaient le maître et le prote. Vous comprendrez alors l'existence des deux amis. En 1821, dans les premiers jours du mois de mai, David et Lucien étaient près du vitrage de la cour au moment où, vers 2 heures, leurs 4 ou 5 ouvriers quittèrent l'atelier pour aller dîner. Quand le maître vit son apprenti fermant la porte à sonnette qui donnait sur la rue, il emmena Lucien dans la cour comme si la senteur des papiers, des encriers, des presses et des vieux bois lui eût été insupportable. Tous deux s'assirent sous un berceau d'où leurs yeux pouvaient voir quiconque entrerait dans l'atelier. Les rayons du soleil qui se jouaient dans les pampres de la treille caressèrent les deux poètes en les enveloppant de sa lumière comme d'une auréole. Le contraste produit par l'opposition de ces deux caractères et de ces deux figures fut alors si rigoureusement accusé qu'il aurait séduit la brosse d'un grand peintre. David avait les formes que donne la nature aux êtres destinés à de grandes luttes, éclatantes ou secrètes. Son large buste était flanqué par de fortes épaules en harmonie avec la plénitude de toutes ses formes. Son visage, brun de ton, coloré, gras, supporté par un gros cou, enveloppé d'une abondante forêt de cheveux noirs, ressemblait au premier abord à celui des chanoines chantés par Boileau. Mais un second examen vous révélait, dans les sillons des lèvres épaisses, dans la fossette du menton, dans la tournure d'un nez carré, fendu par un méplat tourmenté, dans les yeux surtout, le feu continu d'un unique amour, la sagacité du penseur, l'ardente mélancolie d'un esprit qui pouvait embrasser les deux extrémités de l'horizon en pénétrant toutes les sinuosités et qui se dégoûtait facilement des jouissances tout idéales en y portant les clartés de l'analyse. Si l'on devinait dans cette face les éclairs du génie qui s'élance, on voyait aussi les cendres auprès du volcan. L'espérance s'y éteignait dans un profond sentiment du néant social où la naissance obscure et le défaut de fortune maintiennent tant d'esprits supérieurs. Auprès du pauvre imprimeur, à qui son état, quoique si voisin de l'intelligence, donnait des nausées, auprès de ce Silène lourdement appuyé sur lui-même qui buvait à longs traits dans la coupe de la science et de la poésie, en s'enivrant afin d'oublier les malheurs de la vie de province, Lucien se tenait dans la pose gracieuse trouvée par les sculpteurs pour le Bacchus indien. Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique. C'était un front et un nez grecs, la blancheur veloutée des femmes, des yeux noirs tant ils étaient bleus, des yeux pleins d'amour et dont le blanc le disputait en fraîcheur à celui d'un enfant. Ses beaux yeux étaient surmontés de sourcils comme tracés par un pinceau chinois et bordés de longs cils châtains. Le long des joues brillait un duvet soyeux dont la couleur s'harmoniait à celle d'une blonde chevelure naturellement bouclée. Une suavité divine respirait dans ses tempes d'un blanc doré. Une incomparable noblesse était empreinte dans son menton court, relevé sans brusquerie. Le sourire des anges tristes errait sur ses lèvres de corail, rehaussées par de belles dents. Il avait les mains de l'homme bien né, des mains élégantes, à un signe desquelles les hommes devaient obéir et que les femmes aiment à baiser. Lucien était mince et de taille moyenne. À voir ses pieds, un homme aurait été d'autant plus tenté de le prendre pour une jeune fille déguisée que, semblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucieux, il avait les hanches conformées comme celles d'une femme. Cet indice, rarement trompeur, était vrai chez Lucien, que la pente de son esprit remuant amenait souvent, quand il analysait l'état actuel de la société, sur le terrain de la dépravation particulière aux diplomates, qui croient que le succès est la justification de tous les moyens, quelque honteux qu'ils soient. L'un des malheurs auxquels sont soumises les grandes intelligences, c'est de comprendre forcément toutes choses, les vices aussi bien que les vertus. Ces deux jeunes gens jugeaient la société d'autant plus souverainement qu'ils s'y trouvaient placés plus bas, car les hommes méconnus se vengent de l'humilité de leur position par la hauteur de leur coup d'œil. Mais aussi, leur désespoir était d'autant plus amer qu'ils allaient ainsi plus rapidement où les portait leur véritable destinée. Lucien avait beaucoup lu, beaucoup comparé. David avait beaucoup pensé, beaucoup médité. Malgré les apparences d'une santé vigoureuse et rustique, l'imprimeur était un génie mélancolique et maladif. Il doutait de lui-même. Tandis que Lucien, doué d'un esprit entreprenant, mais mobile, avait une audace en désaccord avec sa tournure molle, presque débile, mais pleine de grâce féminine. Lucien avait au plus haut degré le caractère gascon, hardi, brave, aventureux, qui s'exagère le bien et amoindrit le mal, qui ne recule point devant une faute s'il y a profit, et qui se moque du vice s'il s'en fait un marchepied. Ses dispositions d'ambitieux étaient alors comprimées par les belles illusions de la jeunesse, par l'ardeur qui le portait vers les nobles moyens que les hommes amoureux de gloire emploient avant tous les autres. Il n'était encore aux prises qu'avec ses désirs, et non avec les difficultés de la vie, avec sa propre puissance, et non avec la lâcheté des hommes, qui est d'un fatal exemple pour les esprits mobiles. Vivement séduit par le brillant de l'esprit de Lucien, David l'admirait, tout en rectifiant les erreurs dans lesquelles le jetait la furie française. Cet homme juste avait un caractère timide, en désaccord avec sa forte constitution, mais il ne manquait point de la persistance des hommes du Nord. S'il entrevoyait toutes les difficultés, il se promettait de les vaincre sans se rebuter. Et, s'il avait la fermeté d'une vertu vraiment apostolique, il la tempérait par les grâces d'une inépuisable indulgence. Dans cette amitié, déjà vieille, l'un des deux aimait avec idolâtrie, et c'était David. Aussi, Lucien commandait-il en femme qui se sait aimer. David obéissait avec plaisir. La beauté physique de son ami comportait une supériorité qu'il acceptait en se trouvant lourd et commun. Au bœuf, l'agriculture patiente, à l'oiseau, la vie insouciante, se disait l'imprimeur. Je serai le bœuf, Lucien sera l'aigle. Depuis environ 3 ans, les deux amis avaient donc confondu leur destinée si brillante dans l'avenir. Ils lisaient les grandes œuvres qui apparurent depuis la paix sur l'horizon littéraire et scientifique, les ouvrages de Schiller, de Goethe, de Lord Byron, de Walter Scott, de Jean-Paul, de Berzelius, de Davy, de Cuvier, de Lamartine, etc. Il s'échauffait à ses grands foyers, il s'essayait en des œuvres avortées ou prises, quittée et reprise avec ardeur. Il travaillait continuellement sans lasser les inépuisables forces de la jeunesse. Également pauvres, mais dévorés par l'amour de l'art et de la science, ils oubliaient la misère présente en s'occupant à jeter les fondements de leur renommée. « Lucien, sais-tu ce que je viens de recevoir de Paris ?» dit l'imprimeur en tirant de sa poche un petit volume in 18. « Écoute !» David lut, comme savent lire les poètes, l'idylle d'André de Chénier intitulée « Néer », puis celle du jeune malade, puis l'élégie sur le suicide, celle dans le goût ancien et les deux derniers iambes. « Voilà donc ce qu'est André de Chénier ?» s'écria Lucien à plusieurs reprises. « Il est désespérant !» répétait-il pour la troisième fois, quand David, trop ému pour continuer, lui laissa prendre le volume. « Un poète retrouvé par un poète !» dit-il en voyant la signature de la préface. « Après avoir produit ce volume, reprit David, Chénier croyait n'avoir rien fait qui fût digne d'être publié. » Lucien lut à son tour l'épique morceau de l'aveugle et plusieurs élégies. Quand il tomba sur le fragment « S'ils n'ont point de bonheur, en est-il sur terre ?» Il baisa le livre et les deux amis pleurèrent, car tous deux aimaient avec idolâtrie. Les pampres s'étaient colorés, les vieux murs de la maison, fendillés, bossués, inégalement traversés par d'ignobles lézardes, avaient été revêtus de cannelures, de bossages, de bas-reliefs et des innombrables chefs-d'œuvre de je ne sais quelle architecture par les doigts d'une fée. La fantaisie avait secoué ses fleurs et ses rubis sur la petite cour obscure. La Camille d'André Chénier était devenue pour David son Ève adorée et pour Lucien une grande dame qu'il courtisait. La poésie avait secoué les pans majestueux de sa robe étoilée sur l'atelier où grimaçaient les singes et les ours de la typographie. 5 heures sonnaient, mais les deux amis n'avaient ni faim ni soif. La vie leur était un rêve d'or. Ils avaient tous les trésors de la terre à leurs pieds. Ils apercevaient ce coin d'horizon bleuâtre, indiqué du doigt par l'espérance, à ceux dont la vie est orageuse, et auxquels sa voix de sirène dit « Allez, volez, vous échapperez au malheur par cet espace d'or, d'argent ou d'azur. » En ce moment, l'apprenti de l'imprimerie ouvrit la petite porte vitrée qui donnait de l'atelier dans la cour et désigna les deux amis à un inconnu qui s'avança vers eux en les saluant. « Monsieur, dit-il à David en tirant de sa poche un énorme cahier. « Voici un mémoire que je désirerais faire imprimer. Voudriez-vous évaluer ce qu'il coûtera ?»« Monsieur, nous n'imprimons pas des manuscrits si considérables, » répondit David sans regarder le cahier. « Voyez, messieurs Cointet. Mais nous avons cependant un très joli caractère qui pourrait convenir, » reprit Lucien en prenant le manuscrit. Il faudrait que vous eussiez la complaisance de revenir demain et de nous laisser votre ouvrage pour estimer les frais d'impression. N'est-ce pas, monsieur Lucien Chardon, que j'ai l'honneur ? Oui, monsieur, répondit le prote. Ah, je suis heureux, monsieur, dit l'auteur, d'avoir pu rencontrer un jeune poète promis à de si belles destinées. Je suis envoyé par madame de Bargeton. En entendant ce nom, Lucien rougit et balbutia quelques mots pour exprimer sa reconnaissance de l'intérêt que lui portait madame de Bargeton. David remarqua la rougeur et l'embarras de son ami, qu'il laissa soutenant la conversation avec le gentilhomme campagnard, auteur d'un mémoire sur la culture des vers à soie, et que la vanité poussait à se faire imprimer pour pouvoir être lu par ses collègues de la Société d'agriculture. « Eh bien, Lucien, » dit David quand le gentilhomme s'en alla, « aimerais-tu madame de Bargeton ? » Éperdument ! Mais vous êtes plus séparés l'un de l'autre par les préjugés que si vous étiez, elle à Pékin, toi dans le Groenland. La volonté de deux amants triomphe de tout, dit Lucien en baissant les yeux. Tu nous oublieras, répondit le craintif amant de la belle Ève. Peut-être t'ai-je, au contraire, sacrifié ma maîtresse, s'écria Lucien. Que veux-tu dire ? Malgré mon amour, malgré les divers intérêts qui me portent à m'impatroniser chez elle, je lui ai dit que je n'y retournerais jamais si un homme de qui les talents étaient supérieurs aux miens, dont l'avenir devait être glorieux, si David Séchard, mon frère, mon ami, n'y était reçu. Je dois trouver une réponse à la maison. Mais quoique tous les aristocrates soient invités ce soir pour m'entendre lire des vers, si la réponse est négative, je ne remettrai jamais les pieds chez madame de Bargeton. David serra violemment la main de Lucien après s'être essuyé les yeux. 6 heures sonnèrent. « Oh, Ève doit être inquiète. Adieu !» dit brusquement Lucien. Il s'échappa, laissant David en proie à l'une de ces émotions que l'on ne sent aussi complètement qu'à cet âge, surtout dans la situation où se trouvaient ces deux jeunes cygnes, auquel la vie de province n'avait pas encore coupé les ailes. « Cœur d'or !» s'écria David en accompagnant de l'œil Lucien qui traversait l'atelier. Lucien descendit à l'Houmeau par la belle promenade de Beaulieu, par la rue du Minage et la porte Saint-Pierre. S'il prenait ainsi le chemin le plus long, dites-vous que la maison de madame de Bargeton était situé sur cette route. Il éprouvait tant de plaisir à passer sous les fenêtres de cette femme, même à son insu, que depuis 2 mois, il ne revenait plus à l'Houmeau par la porte palée. En arrivant sous les arbres de Beaulieu, il contempla la distance qui séparait Angoulême de l'Houmeau. Les mœurs du pays avaient élevé des barrières morales bien autrement difficile à franchir que les rampes par où descendait Lucien. Le jeune ambitieux qui venait de s'introduire dans l'hôtel de Bargeton, en jetant la gloire comme un pont volant entre la ville et le faubourg, était inquiet de la décision de sa maîtresse, comme un favori qui craint une disgrâce, après avoir essayé d'étendre son pouvoir. Ces paroles doivent paraître obscures à ceux qui n'ont pas encore observé les mœurs particulières aux cités divisées en ville haute et ville basse. Mais il est d'autant plus nécessaire d'entrer ici dans quelques explications sur Angoulême, qu'elles feront comprendre madame de Bargeton, un des personnages les plus importants de cette histoire.